Alors, il y a une question qu'on peut se poser tous. Est-ce qu'il faut être jeune? Est-ce qu'il faut être riche pour être heureux? C'est l'œil de Raphaël. Est-ce qu'on est plus heureux en fonction de l'âge, Raphaël?
Oui, parce que j'ai vu passer un autre baromètre, un sondage Ipsos qui est assez intéressant. Sur 30 pays, ils ont interrogé 24 000 adultes de moins de 75 ans. C'est important, moins de 75 ans. Dans 30 pays, avec une question simple, êtes-vous heureux? Et c'est assez intéressant ce qui s'affiche à l'écran, parce que on voit que finalement, ça fait une forme de U. On est plutôt heureux dans la vingtaine. Ça descend, alors j'avoue que ça descend un peu plus bas dans la cinquantaine. La cinquantaine, on est un peu dans le dur.
Ah
mais
oui,
par contre,
voilà.
Mais par contre,
c'est le pirage en fait, 50-59.
50-59, c'est plus compliqué. Mais par contre, plus on est vieux et en bonne santé aussi, c'est pour ça forcément que ça s'arrête à 75 ans, ça remonte quand même assez nettement. Donc finalement, les moins heureux, c'est les cinquantenaires, mais sinon, après, ça remonte. Et il y avait une autre étude aussi qui montrait que ça montait graduellement jusqu'à 70 ans. Il y avait une sorte de pic à 70 ans. Bon, et puis après, forcément, c'est un peu plus compliqué. Et il y a quand même une disparité entre les genres, notamment. Alors, à un seul âge, notamment, c'est la génération Z, donc c'est les vingtenaires, 20-30 ans. Les jeunes femmes sont en moyenne moins heureuses que les jeunes hommes. Et sinon, évidemment, là, c'est la courbe qu'on a vue juste avant. Et puis, il y a une autre question, effectivement, c'est d'ordre financier. Est-ce qu'on est plus heureux si on a de l'argent? Et cette étude Ipsos, elle interroge justement selon le revenu. Et on voit qu'il y a une différence, mais qui n'est pas énorme. 62% des interrogés dans les 30 pays, hein, donc c'est des revenus différents, mais par rapport au pays, sur les faibles revenus, s'estiment heureux. Ça monte à 75% sur les hauts revenus. Donc l'écart n'est pas énorme, mais par contre, à l'inverse, et ça c'est dans tous les pays, les 30 pays, le manque d'argent, oui, les difficultés financières, ça... Par contre, c'est une vraie source de malheur.
En fait, si je comprends bien, la richesse ne rend pas forcément beaucoup plus heureux, mais il faut avoir un minimum pour vivre.
Exactement.
Pour pas que ça génère.
Moi, j'observais que dans le classement, les pays les plus heureux sont quand même des démocraties. Être libre sans heureux aussi.
Sur l'âge aussi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question de l'âge, parce que Christophe, je vous vois...
C'est un peu inquiétant cette déconnexion femme-homme sur l'âge.
Je vous vois régir sur les jeunes.
C'est-à-dire c'est ceux qui avaient 15-16 ans au moment de la Covid. Est-ce que là, il s'est passé quelque chose qui a, on le sait, accru la charge mentale de tous les jeunes, les a un peu brisés? Est-ce que les filles ont été plus touchées ou est-ce que c'est un biais statistique?
Oui, on n'a pas l'explication dans l'étude, mais c'est vrai qu'on a, envie de comprendre pourquoi les jeunes femmes de 20-30 ans sont moins heureuses que les jeunes hommes.
La charge mentale a été beaucoup plus violente sur les femmes que sur les hommes, bien sûr.
Vous avez des pistes d'explication, effectivement, la charge mentale peut-être plus violente, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a que chez les jeunes femmes, cette distinction entre...
Oui, puisque c'est la génération anxieuse, ce qu'on appelle la génération anxieuse maintenant.
Ils sont beaucoup sur les écrans. Et quelque part, les écrans font écran avec la vraie vie, et ça manque de relations humaines aussi.
Et pourquoi ça impacte plus les jeunes filles?
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si elles communiquent plus par écran et moins en vrai, ça joue.
Juste pour poursuivre sur les écrans, il y a aussi une étude d'Harvard que vous devez connaître, qui est l'étude la plus longue de l'histoire. Ça fait 85 ans. D'ailleurs, je crois qu'il y avait le président Kennedy qui était dans l'échantillon.
Dans le panel.
Au début. Et qui estime, en fait, que finalement, le premier critère du bonheur, effectivement, c'est le lien social plus que tout le reste. C'est le lien social. Et donc, effectivement, on imagine qu'avec aujourd'hui les écrans qui peuvent parfois couper d'une façon, d'une certaine façon, le lien social.
Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est pendant la période de la crise financière, au tournant dans les années 2010, j'étais très, très, très fréquemment en Grèce à ce moment-là, et c'était la Grèce qui était en plein chaos financier, budgétaire, avec quand même des licenciements en pagaille. Dans le privé, les gens ne touchaient leur salaire un mois sur deux seulement. Et à l'observation, l'ambiance était toujours aussi enthousiaste. Et le secret, c'est la famille, parce qu'ils se retrouvaient en famille et que les jeunes qui étaient sur le carreau, eh bien, pouvaient bénéficier de la relative protection de leurs parents. Et il y en a beaucoup qui ont quitté leur logement, d'ailleurs, à l'époque, pour retourner chez leurs parents vivre. Et néanmoins, l'ambiance dans le pays n'était pas au quatrième dessous. Vous voyez, alors qu'ils traversaient une période très compliquée.
Le lien social qui compte, qui est primordial, et pas que. Quand on voit que la Finlande est toujours en tête des pays où on est le plus heureux, comment vous l'expliquez, vous, Christophe?
Pas par le climat. Je pense que l'hiver doit être long. Non, il y a quand même une pérennité de cette sensation du bonheur scandinave, parce qu'il y a peut-être un peu moins d'égoïsme que chez nous, et qu'on va se déclarer heureux parce qu'on constatera que la société est à peu près équilibrée. Chez nous, quand on dit heureux, c'est moi. Moi, est-ce que je suis heureux? Moi, est-ce que j'ai ce qu'il me faut? Moi. Peut-être qu'ils ont cet altruisme-là qui les protège. Et puis je crois aussi qu'il y a une forme de contagion des générations. C'est-à-dire quand votre pays porte l'idée de bonheur depuis un certain temps, ça devient un trésor national. Donc il faut se déclarer heureux.
C'est ce
heureux,
que vous disiez tout à l'heure. J'ai décidé d'être heureux.
Voilà. Donc, on n'a pas le droit. On est un mauvais Finlandais si on est malheureux.
Il y a un système scolaire extraordinaire en Finlande. Moi, j'ai beaucoup étudié quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire. C'est-à-dire que c'est un pays qui fait la réussite par le plaisir, par le bonheur. On apprend aux enfants à s'appuyer sur les points positifs qu'ils ont. Et en s'appuyant, on leur donne confiance en eux, et au lieu de les punir parce qu'ils font quelque chose de mal, au contraire, on les récompense quand ils utilisent une de leurs compétences et qu'ils s'appuient sur cette compétence.
C'est-à-dire
positive.
Qu'on n'est pas forcément dans la compétition entre élèves.
Non, parce qu'il y a aussi des notes collectives. On apprend aux enfants dans les groupes. Alors il y en a qui vont être bons en maths, pas bons en maths, donc bons en sport, etc. On leur apprend la complémentarité, et la note collective, c'est la note du groupe, donc ils s'entraident au lieu d'être en compétition. Et nous, on est dans un système très hyper compétitif et surtout hyper de sanctions. Mm-hmm. De sanctions. Et donc, c'est la question de la résilience, elle est cruciale dans les excellents livres de notre ami, on voit ça. La résilience est cruciale. Et vous voyez, moi, qui ai connu pas mal d'échecs, c'est violent, je me suis toujours dit, mais un échec est l'ouverture d'autres possibles.
Vous avez la philosophie finlandaise, c'est ça.
Un échec est l'ouverture d'autres possibles. Vous voyez, donc apprendre à chacun la résilience.
Il y a un mot en finlandais, le sisu.
Le sisu.
Qui est en fait de le tourner sisu. Les difficultés en opportunité.
Oui.
Donc c'est la philosophie c'est finlandaise ça. peut-être à adopter.
Oui. Et puis, c'est le souci plutôt que le sisu.
C'est ça, c'est le souci en France.
Vous avez ce que disait Georges Pompidou, parce qu'on considérait que la période Pompidou, c'était période heureuse, les 30 glorieuses et tout ça. Un pays heureux, c'est un pays qui n'a pas d'histoire. Je souhaiterais que sous ma présidence, eh bien, il n'y ait pas d'histoire et qu'on progresse tout le temps.
Ouais.
Voilà, c'était ce qu'il disait.
Et puis, il y a un paramètre aussi sur la Finlande qu'on a oublié de souligner, c'est la nature. C'est quand même un pays qui est recouvert à 70% de forêt. Oui. Et là aussi, j'imagine que ça compte.
Oui, parce que la nature apaise et rend heureux.
Oui.
Ils sont très forts dans la nature.
Et si le bonheur était justement dans le chant des oiseaux? Alors regardez, non mais, regardez là, voilà, c'est du bien. Et regardez la une de Libération demain avec les piaf, la vie en rose, parce que visiblement il y a des études scientifiques qui montrent les bienfaits du chant des oiseaux sur notre santé mentale.
Ça c'est clair.
C'est sur moi-même.
Et des bruits qui apaisent plus qu'un bruit d'embouteillage.
Ça vous apaise, Christophe?
Ah oui, j'adore le chant des oiseaux.
Ah oui,
et d'ailleurs, j'ai constaté, moi qui viens de la montagne, la raréfaction du chant des oiseaux, moins d'insectes à cause de tout ce que l'on sait.
400 millions d'oiseaux.
Voilà, et moins d'oiseaux. Alors, pas tous les chants de tous les oiseaux. La mouette peut être agaçante et le corbeau inquiétant, mais ces petits oiseaux, c'est
la mouette, ça peut être stressant.
Le pigeon, c'est pas désagréable.
Non, ça en coule, c'est pas mal.
Et est-ce que ça marche avec les applications? Ça détend aussi des vrais oiseaux? Parce que vous avez ça existe.
Très bonnes applications.
Ah oui. Donc une petite application avant de dormir. On s'écoute le chant des oiseaux et c'est
censé faire du bien. On va porter quelque chose de bon sur son oreiller, pas avoir une odeur agréable.
Mais alors justement, regardez, il est bientôt l'heure d'aller se coucher.
Oui.
Si demain matin on a envie de se réveiller de bonne humeur, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Une petite routine pour essayer de bien s'endormir.
Déjà bien dormir, il faut le noir complet dans la chambre. Si vous l'avez pas, mettez un masque d'avion, tout simplement. Mm-hmm. Parce qu'une toute petite diode lumineuse de rien du tout suffit à perturber la qualité et la quantité du sommeil. Ensuite, il faut qu'il fasse le plus frais possible. Il vaut mieux dormir nu et surtout aéré.
Voilà. Dormez nu, vous serez heureux.
Dormir nu en Finlande l'hiver, vous n'êtes pas heureux.
Ben, ça dépend si vous avez une bonne couette, une couette bien chaude. Et le matin, au réveil, pour démarrer la journée du bon pied, est-ce qu'on peut avoir une routine bonheur?
Et pour bien s'endormir aussi, pensez aux trois meilleures choses de la journée.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est important. Moi, ce que je fais avant de m'endormir, je pense aux meilleurs moments que j'ai vécu.
Et ça fait un effet?
Ben oui, mais forcément, parce que ça apaise, on s'endort sur de belles images. Très important.
Le meilleur moment de la journée?
Oui, les meilleurs moments qu'on a traversés.
Et le matin, demain matin, quand on se réveille?
L'idéal, c'est de se réveiller naturellement.
Ouais, alors ça, il n'y a pas grand monde qui a cette chance-là, hormis le week-end. Et encore, si vous avez des enfants, c'est compliqué.
Bien s'hydrater déjà. Mm-hmm. Parce que souvent, on n'est pas bien hydraté et on est fatigué. Alors moi, j'ai un petit rituel le matin, je prends une douche froide, 3 minutes. Ouais. Extraordinaire, essayez demain matin. Vous avez essayé ?
Victor Hugo,
oui, j'ai essayé.
Victor Hugo faisait ça.
Et alors, on libère des endorphines, des hormones du bonheur. Je vois la vie en rose toute la journée.
Avec une douche froide.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Non mais alors attendez, parce qu'il faut sortir du lit et se dire, psychologiquement, je vais aller me mettre sous l'eau froide.
Oui. Oui.
Si vous n'avez pas eu trop chaud la nuit, ça a été, parce qu'il ne faut pas avoir trop chaud la nuit. Donc le choc thermique n'est pas...
C'est un truc qui me donne une énergie extraordinaire. Ça fait beaucoup de bien.
Et au niveau
et c'est bon pour la planète.
Et c'est bon pour la planète, c'est vrai. Et vous et sinon au niveau des aliments, est-ce qu'il y a des aliments, parce qu'on dit toujours, je sais pas, que le chocolat ça remonte le moral, est-ce que ça c'est un fantasme, c'est une idée préconçue, ou il y a vraiment des aliments qui nous rendent plus heureux?
Ça varie beaucoup d'un sujet à l'autre. Il y a des sujets, le chocolat noir, oui, c'est très bien, ça donne une certaine énergie. Plus il est noir, mieux c'est. Donc, au-dessus de 85%, parfait. Comme ça, on en mange moins aussi.
Non, alors, attendez, du chocolat noir, 85%, la douche froide, glacée au réveil, vous vendez du rêve, là, pour le bonheur. Hein.
Oui, parce qu'après, vous allez trouver la vie extraordinaire.
Bon, alors, ok, voilà la recette du bonheur ce soir. Vous l'avez, la douche froide et le chocolat noir à 85%. Et Ségolène, est-ce que vous avez un petit truc?
Non, mais le matin, c'est de dire je suis vivante.
Une pensée positive,
vivant,
le matin.
Je me réveille, je suis vivante. Et donc, il y a une journée devant moi. C'est ça. C'est transmis, moi, ça, à mes enfants. Je dis, tu travailles le matin, tu es vivant. Alors, il n'y a pas de problème, etc. Mais c'est bon.
Voilà.
Et puis, j'ai une autre chose aussi, c'est de dire, quand on n'a pas ce que l'on veut, il faut aimer ce que l'on a. Et c'est très efficace. Bon. Parce que parfois, on a des choses, on s'en rend même plus compte, parce que ne serait-ce qu'avoir la santé, déjà, c'est tellement, tellement essentiel.
Et on va s'arrêter sur cette phrase-là.
Des gens qui vous aiment, que vous aimez, des projets.
Phrase. Et on va s'endormir sur cette phrase. Merci beaucoup, Ségolène Royal. Merci à vous tous d'avoir été avec nous ce soir. Plein de bonheur, bonne nuit et à lundi.